Bonjour à tout le monde, je vous souhaite de passer un très bon sabbat. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais mentionné à la fin du sermon le fait de s'éprouver, que la Bible demande, la Bible veut que nous, Dieu veut que nous nous éprouvions nous-mêmes avant la Pâque. Et j'avais dit à ce moment-là que ce sera le sujet du prochain sermon. La Bible donc parle effectivement de s'éprouver soi-même. Dans le même contexte, dans le même chapitre, la Bible parle également le fait de se juger. Et entre parenthèses, quand il s'agit de s'éprouver soi-même, c'est traduit dans un autre passage dans 1 Thessaloniciens, comme quoi Dieu sonde nos cœurs. Donc il s'agit de s'éprouver, de sonder nos cœurs de notre côté. Dieu demande deux choses. Il demande, bien sûr, qu'on enlève le levain de nos maisons, mais Dieu demande également que nous recherchions dans nos vies, qu'on s'éprouve soi-même. Il y a les deux côtés. Il y a le côté physique, avec bien sûr des ramifications personnelles, spirituelles, et le fait de rechercher dans nos vies. Dieu veut qu'on se donne de la peine. Et donc, c'est notre préparation pour la Pâque. Le fait de s'examiner, le fait de s'éprouver. Ce que j'ai voulu faire dans ce sermon, c'est de commencer avec Proverbes chapitre 23, verset 13. Parce que dans ce passage, c'est un passage très intéressant dans le contexte du plan de Dieu, ça démontre toute l'étendue du plan de Dieu. Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Et c'est très intéressant de pouvoir justement mettre les événements, mettre notre préparation de la Pâque dans ce contexte. Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Nous lisons ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je m'arrête là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous savons bien qu'il y a deux voies dans le plan de Dieu. Vous avez donc la première voie, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et puis il y a une deuxième voie, la suite du verset 13, mais celui qui les a vus et les délaisse obtient miséricorde. Les deux voies, la Bible parle de confesser nos péchés. Le mot « cacher », quand c'est marqué « celui qui cache ses transgressions », ça peut traduire en français par « couvrir » ou « dissimuler ». Le fait de couvrir ou dissimuler. Je vous ai parlé, je crois, la dernière fois de l'expression en anglais « under the rug », c'est-à-dire de passer, pour ainsi dire, c'est ça aussi le sens, passer sous silence quelque chose, occulter quelque chose, dissimuler quelque chose. Et donc, c'est la première partie du verset, celui qui cache ou qui dissimule, ou qui occulte ses transgressions, ne prospère point. On peut cacher, bien sûr, aux autres. On peut même, dans certaines circonstances, cacher de soi-même ou ne pas être conscient. Parce qu'il faut, pour prospérer, il faut admettre. Et on peut peut-être penser qu'on peut cacher de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Dieu voit tout. Dieu sait tout et Dieu est conscient de notre situation spirituelle. Et c'est marqué donc celui qui cache ses transgressions, qui occulte des transgressions qui sont dans nos vies, qui sont réelles, ne prospère point. Là aussi, c'est un mot qui est intéressant, ne prospère point. Ça a le sens d'avancer, donc n'avance pas, n'avance point. Prospérer ou faire des progrès. Et même, il y a une traduction, dans Psaume 45, c'est traduit par vainqueur. Donc celui qui, pour revenir au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ce n'est pas un vainqueur. C'est pas quelqu'un qui vainc, Il n'avance pas, il ne fait pas de progrès. Il y a d'autres traductions dans la version seconde 1910 où il s'est traduit ailleurs, donc dans cette version par réussir, réussite, succès, réussir, réussite, succès, être vainqueur ou accomplir. Josué chapitre 1, verset 8, c'est une écriture avec laquelle nous sommes très familiers. Josué chapitre 1, verset 8, et on connaît le contexte juste avant que Israël entre dans la terre promise, où Dieu encourage Josué et où Dieu lui dit, je cite seulement Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Le mot succès, donc, c'est le même mot que ce que nous venons de voir dans Proverbe 28, verset 13. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous voulons réussir spirituellement. Nous voulons du succès dans notre vie de chrétienne, chrétien. C'est essentiel même que nous puissions progresser, que nous puissions avancer, que nous puissions vaguer. Et qu'est-ce qui nous empêche de vaguer? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin? Puisqu'il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc de deux voies. Nous avons le choix constamment de prendre une voie ou l'autre voie, la voie de Dieu. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin? Qu'est-ce qui constitue les obstacles dans notre vie? Et qu'est-ce qui peut nous détourner donc de la voie de Dieu ou de notre but et même de reculer? C'est bien sûr le péché. Nous sommes dans la période où période par excellence, où il faut enlever ce qui nous empêche d'avancer. Pour pouvoir réagir, pour voir d'abord et pour pouvoir réagir. Et d'examiner de près ce qui nous empêche donc d'avancer et de croître. Nous sommes toujours avec Proverbe chapitre 28, verset 13. Comme je dis, c'est un verset très intéressant dans le contexte de notre préparation pour la Pâque. Et la deuxième partie du verset qui est très encourageant, et il y a dans la Bible des exemples, bien sûr, qui illustrent cette deuxième partie du verset 13, mais celui qui les a vus et les délaisse obtient miséricorde. C'est donc la deuxième voie, la voie de Dieu, celui qui les a vus et les délaisse. Il y a donc deux conditions que la Bible donne. Il faut les avouer, il faut reconnaître, il faut voir, constater, et il faut les délaisser. C'est essentiel. Dans Daniel 9, verset 20, parlait de confesser, je confessais mon péché. Et dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1, nous lisons, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc d'abord, j'ai cité Daniel chapitre 9 et le verset 20, et ensuite Ésaïe chapitre 59 et le verset 1, je répète, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc cet obstacle, les obstacles dans notre vie, ce sont les péchés qui cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Et nous voulons bien sûr que Dieu nous écoute. Nous voulons avancer petit à petit. Ésaïe chapitre 55, verset 7, la première partie du verset dit ceci. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc il s'agit d'avouer, Donc, pour revenir à Proverbe 28, verset 13, il s'agit d'avouer et de délaisser, de reconnaître ses faiblesses, ses failles, et de faire faute basse, faire, pardon, faute face. Et Dieu aime, bien sûr, nous voir lutter. Et on obtient quoi? On obtient la miséricorde de Dieu. La deuxième partie d'Ésaïe 55, verset 7, Ésaïe 55, verset 7, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Heureusement pour nous, dans le Darby, c'est marqué, il aura compassion de lui. Il aura compassion de lui. Donc, je reviens encore à cette deuxième partie du verset 13, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde de la part de Dieu, bien sûr. Et c'est ce qui nous permettra de réussir, de progresser vers notre but, de progresser vers le royaume. Qui plus est, lorsque nous chantons, lorsque nous regardons le psaume 32, verset 1, nous lisons ceci, psaume 32 et le verset 1, heureux celui à qui la transgression est remise. Donc on vient devant Dieu, on avoue nos péchés, on les délaisse, on se repent, on les délaisse, et la Bible dit que nous sommes heureux si, donc, quand Dieu pardonne. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2, toujours, je cite seulement, je ne m'y rapporte pas, je cite, psaume 32, verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Pourquoi? Parce que la personne les a avoués, parce que la personne s'est repentie, parce que Dieu a pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset, toujours le psaume 32, cette fois-ci le verset 11. Toujours ce thème de bonheur, le fait d'être heureux. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est intéressant de lire tout le chapitre et surtout ces versets-là que je viens de citer. Donc, quand le juste, pardon, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les a vues les délaisse. Ça, c'est donc, je reviens à Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les a vues et les délaisse obtient miséricorde. Et donc, c'est l'époque où Dieu veut qu'on les a vus, qu'on les voit, qu'on les a vus et qu'on les délaisse pour obtenir miséricorde. C'est donc intéressant de commencer avec ce verset avant d'aller plus loin. Parce que nous nous examinons dans le but de voir. Le péché, c'est ce qui nous empêche d'avancer et de réussir. Nos faiblesses, nos péchés, il y a des péchés, des faiblesses que nous n'avons pas vus jusque-là. Bien sûr, il y a des péchés qui sont faciles à voir, par exemple l'impatience, par exemple le fait de se mettre en colère d'une façon injustifiée. Mais il y a d'autres péchés que nous ne voyons pas, ou que nous n'avons pas vus jusqu'à maintenant. D'autres sont moins évidents. Dieu les voit, mais nous ne les voyons pas forcément. Et c'est ce que Dieu veut que nous changions. Entre autres, je cite 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 16. Je ne m'y rapporte pas. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, où la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour lutter, pour exercer un effort. Et Dieu dit aussi, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est toujours ce même contexte dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On continue et on saute quelques versets, on arrive à 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est notre but. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, puisque c'est bel et bien un processus, c'est une voie que nous avons prise au moment de notre baptême et même avant. Il s'agit donc d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous regardons Psaume 51, le psaume 51, nous voyons, bon, c'est quelque chose que nous connaissons bien, mais nous voyons dans ce psaume, bien sûr, le repentir de David, et nous voyons donc, c'est un repentir profond et sincère, sincère, pardon. On va commencer, si vous voulez bien, avec le verset 3. On voit du reste, lorsqu'on lit ce psaume, la profondeur des paroles de David au Dieu, et ça illustre, entre parenthèses, ce que nous venons de lire dans Proverbe 28 et le verset 13. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David connaissait Dieu, il savait que Dieu était un Dieu de bonté et de miséricorde. Et il fait appel à cette miséricorde de Dieu. Lave-moi complètement, verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il a donc avoué. Et Dieu pouvait exercer la miséricorde. Une chose est certaine, au début du verset 5, car je reconnais mes transgressions. Une chose est certaine, David voyait. Et mon péché est constamment devant moi. David voyait bien. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu sois juste en ta sentence sans reproche de ton jugement. Il était très conscient, il voyait très clairement. Voici verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il ne cachait pas, il ne cherchait pas à cacher ses transgressions. Il cherchait à se rapprocher de Dieu et garder cette relation qu'il avait avant de pécher. Verset 9. Et c'est pour ça que dans le verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il voyait son besoin d'être pur, c'était son désir le plus profond, d'être pur, d'être purifié, d'être pardonné par Dieu. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. David s'est pas excusé. Il s'est pas justifié. Il n'a pas évoqué des circonstances atténuantes. David voyait l'horreur de son péché. Entre parenthèses, son péché pour lequel, enfin, ses péchés, parce qu'il y avait plusieurs, ses péchés pour lesquels il a payé très très cher. Je lui ai dit du reste. Mais le problème, c'est que si on parle des circonstances atténuantes, quand on parle de péché, en ce qui nous concerne au moins, ça peut réduire à notre, dans notre esprit, ça peut réduire notre propre culpabilité. C'est ça le problème. Il peut y avoir des circonstances atténuantes sur un plan humain, parce que quelqu'un d'autre a agi d'une certaine façon. Mais la force du repentir, c'est d'admettre le mal que nous avons fait, quel que soit le comportement de quelqu'un d'autre. La force du repentir, c'est d'admettre le mal dont nous sommes coupables, pas de diminuer notre responsabilité. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. David a commis l'adultère avec Bathsheba et c'est marqué dans la Bible que Bathsheba était très belle. Mais David, ce n'était pas les circonstances, comment dire ça, ce n'était pas une raison pour lui de faire ce qu'il a fait. On ne peut pas dire à Dieu, tu sais que. Et David n'a pas essayé d'excuser ses propres actions en rendant Bathsheba coupable. Donc, il faut voir. David voyait, il voyait très clairement. Et Dieu veut que nous puissions voir, parce qu'on ne peut pas avouer si on ne voit pas. Comment? En utilisant la parole de Dieu. Comment voir? Comment progresser? Comment avouer? En utilisant la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est écrite dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous savons bien, on a dit à maintes reprises que l'étude biblique que nous effectuons, que nous faisons, c'est un outil. Et c'est un outil pour nous façonner, pour nous façonner, pour nous changer spirituellement. C'est marqué ici dans ce verset que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire, en termes concrets, ça fait une différence, puisque nous étudions la Bible aussi pour changer, et ça fait une différence. Elle est vivante. Vivante dans notre vie. Elle est active, si vous voulez. Le mot grec ici, c'est intéressant parce que nous comprenons tout de suite, d'après le mot grec, nous avons un mot en français qui est similaire. Le mot en grec, c'est énergès. Et bien sûr, nous avons notre mot, c'est énergie. Et ça peut être traduit par effectif, par actif ou par puissant. Elle est puissante, la parole de Dieu. Elle est active. Elle est efficace. Si vous voulez, on peut tourner ça autrement, c'est la force en action. Quand nous le mettons en pratique, quand nous utilisons la parole de Dieu, c'est la force en action, ça nous transforme. Verset 12, je reviens sur le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'Ostevald traduit ça par les pensées et les intentions du cœur. Par les pensées et les intentions du cœur, et Shura qui dit les désirs et les intentions du cœur. Autrement dit, on peut se poser des questions avec l'aide, bien sûr, quand on étudie la Bible, quels sont nos désirs les plus profonds, quelles sont nos intentions. Qu'est-ce qui traverse notre esprit? Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Et c'est important pour nous de voir derrière, d'examiner, le fait de s'examiner, le fait de s'éprouver, consiste à voir ce qui se passe derrière nos actions, de voir nos intentions, ce qui est vraiment derrière, de voir pourquoi nous faisons ce que nous faisons parfois, et de voir donc notre cœur, de voir ce que Dieu va permettre que nous voyons. Justement pour voir très clairement et pour que par la suite on puisse se repentir. Mais pour se repentir, il faut d'abord voir. Voir clairement, comme David voyait clairement. Nous n'avons pas fait, bien sûr, ce que David a fait, mais nous avons des choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie et que la Bible classifie comme péché. Jacques parle d'un miroir, le fait de se voir comme dans un miroir par rapport à justement à ces paroles de Dieu, dans Jacques chapitre 1, verset 23. Mais à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas un miroir comme nous avons maintenant, où nous voyons très très clairement le moindre des défauts. C'était plutôt un métal qui était poli et on voyait, on avait une certaine image, si vous voulez, mais il fallait donc vraiment scruter pour comprendre. Dans Jacques chapitre 1 et le verset 23. Jacques chapitre 1 et le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc la parole de Dieu, qui est efficace, qui est vivante, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il faut vraiment plonger notre regard dans la parole de Dieu. Et le mot est là utilisé ici, c'est intéressant parce que ça indique le fait de se plier en avant pour regarder fixement, d'une façon intense, ce que nous voyons. Et c'est le même mot que nous trouvons du reste dans 1 Pierre chapitre 1 verset 12, quand les anges désirent plonger leur regard dans les choses spirituelles. C'est pas d'une façon désinvolte, c'est pas d'une façon décontractée, c'est vraiment plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et de se voir par rapport, bien sûr, de se voir par rapport à cette même parole de Dieu. Il fallait une observation attentive. Et il fallait aussi garder justement cette parole de Dieu dans notre tête. Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous ne sommes pas différents que l'apôtre Paul, et c'est pour ça que nous avons besoin de regarder constamment dans la parole de Dieu, de comparer notre vie, comme nous sommes, qui nous sommes, par rapport à cette même parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu est essentielle pour que nous puissions comprendre, voir, et se voir, mais c'est aussi la parole de Dieu de pair avec le Saint-Esprit. Que nous utilisions le Saint-Esprit pour comprendre aussi, que Dieu nous permet de comprendre la parole de Dieu. Dans Psaume 143, verset 10. Psaume 143 et le verset 10. Nous lisons ceci. Toujours de David, psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Effectivement, il y avait cette proximité de Dieu, cette relation spéciale avec Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'était son but, la voie de Dieu. Que ton esprit, ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Que l'esprit de Dieu, Dieu qui est tout puissant, que l'esprit de Dieu l'aide à avancer. Les psaumes sont, on va peut-être aussi rapporter, dans le psaume 139 et le verset 23. Psaume 139 et le verset 23. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est ce qu'on peut demander à Dieu. Surtout si nous ne voyons rien. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est notre but aussi, conduire, de nous conduire, que Dieu nous conduise sur la voie de l'éternité, qu'on entre dans son royaume et que nous puissions aller jusqu'au bout. Le choix qui dit ceci, sonde-moi, elle, Dieu, pénètre mon cœur. Rappelez ce qu'on a dit à propos de la parole de Dieu, qu'elle est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à partager, pénétrante, je vais relire, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Très important donc que nous puissions comprendre. Et donc nous allons vers l'éternité, nous prenons la voie de l'éternité et c'est la voie aussi qui élimine le péché. Il y a des passages, bien sûr, que nous pouvons étudier pour nous aider. C'est capital. C'est capital aussi d'être motivé. Vous vous rappelez peut-être le sermon que j'ai donné sur le fait de les leçons que nous pouvons apprendre quand nous enlevons le vin de la maison. Et la première leçon que j'avais citée, c'est le fait qu'il fallait être motivé parce que c'est un travail. Et il fallait être motivé. Et c'est la même chose sur un plan spirituel, quand nous regardons nos vies, quand nous enlevons le levain de notre vie, quand nous enlevons le péché, il faut être motivé. C'est essentiel. La parole de Dieu est écrite dans le psaume 119 comme une lampe, comme une lumière. Et dans le verset 11 de ce même psaume, psaume 119, verset 11, c'est marqué, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. C'est quelque chose de très individuel. Ce processus d'examen avant la Pâque, c'est quelque chose de très personnel, très individuel. Et il faut bien sûr que nous soyons motivés. Nous avons un problème, et nous avons tous des problèmes. On peut cibler ce problème, essayer de comprendre tout ce que la Bible dit à ce sujet, comment ça s'applique à nous. Et donc, comprendre les paroles, les écritures qui s'appliquent à cette situation et ce qu'il faut que nous fassions. On peut parler de procrastination. Le fait de remettre systématiquement au lendemain. Mais le fait de pratiquer la procrastination peut avoir des répercussions énormes. Je donne l'exemple, Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques 4, 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. On sait quelque chose qu'il faudrait faire dans notre vie, on connaît la chose, et si on remet au lendemain, bon, la Bible décrit ça comme un péché. Le fait de faire le bien, on ne fait pas le bien qu'on sait qu'on devrait faire, ça, c'est pas beau, c'est même décrit comme un péché. Donc, il s'agit de s'examiner, de rechercher, et de rechercher en profondeur, d'être honnête avec nous-mêmes. Ce n'est pas facile, c'est parfois, c'est bien sûr douloureux, si c'est l'examen que nous prenons en profondeur, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'examine, Dieu veut qu'on s'éprouve. On peut prendre, bien sûr, Galates chapitre 5, on peut prendre les œuvres de la chair, des choses que nous faisons peut-être encore par moment, tout au moins dans l'esprit. On peut parler des fruits de l'esprit, peut-être des fruits qui sont pas là, qui devraient être là, qui devraient être présents. C'est pas un manque d'écriture. Il y a pas un manque d'écriture quand il s'agit de s'examiner. On peut prendre Marc chapitre 7, où il est question de ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, pardon. Nous pouvons examiner notre cœur. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, parce qu'il y avait des problèmes que Paul a évoqués dans le chapitre 5, et ensuite chapitre 6, il dit ceci, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Dieu, tendant à ce qui est parfait. C'est ce chemin, c'est cette voie que nous prenons, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, etc. Ensuite, il parle des doctrines de base. Verset 9. Il faut laisser ces choses de base, en gardant bien sûr la base, mais en allant plus loin. Verset 9. Quiconque, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut, d'aller plus loin. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, les gens étaient fidèles. Dieu n'a pas oublié leur travail. Et il rendait des services aux saints. Et bien sûr, nous dans l'Église, si on est là depuis un certain nombre d'années, nous sommes restés fidèles. Nous avons persévéré contre vents et marées. Mais le christianisme, c'est plus que le fait d'endurer jusqu'à la fin. Endurer jusqu'à la fin, c'est essentiel, c'est nécessaire. Il faut que nous gardions le cap jusqu'à la fin. Mais en plus, nous avons besoin de vaincre. En plus, nous avons besoin de croître pour faire et pour croître et pour vaincre. Il faut que nous puissions nous examiner. Il faut que nous éprouvions nous-mêmes. Il faut faire ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, de s'examiner, d'être honnête et de rechercher dans notre vie en profondeur en examinant notre vie par rapport à la Bible. J'ai voulu prendre quand même, parce que comme j'ai dit, il y a toutes sortes de passages que nous pouvons prendre, mais et nous sommes familiers avec Galates chapitre 5, nous sommes familiers avec Marc chapitre 7. J'ai voulu prendre un passage qui est très riche et qui est très utile dans le contexte de notre examen avant la Pâque et qui se trouve dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, au saint et fidèle frère en Christ. J'aime beaucoup comme il commence son épître. Il parle au saint et fidèle frère en Christ. Donc, ils étaient fidèles. Ils avaient été fidèles toutes ces années. Ils avaient fait du chemin, beaucoup de chemin. Tout comme la plupart d'entre nous, on a été fidèles, on a fait beaucoup de chemin. Mais il faut progresser. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il parle à ces mêmes gens qui étaient fidèles, qui nous qualifient de fidèles frères en Christ. Un peu plus loin, dans le chapitre 3, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il parle de chercher. Verset 2, il parle d'affectionner. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est pas un exercice facile. Il faut l'aide de Dieu. Il faut être motivé spirituellement. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre ancienne vie est derrière nous. Verset 4. Quand Christ, et donc si on fait ces choses, si on s'affectionne, si on cherche les choses dans nous, si notre vie antérieure reste une vie morte, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va réussir, mais on va réussir si on fait ce qu'il faut. C'est un chemin, comme j'ai dit. La Bible parle dans Romains 6 de marcher en nouveauté de vie. Verset 5. Faites donc mourir les membres pour en arriver là. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, nos membres, de ce qui nous voyons au-dedans de nous. Et ensuite, il donne une liste. Il parle à des chrétiens qui sont fidèles, mais des chrétiens qui ont besoin aussi de progresser et de combattre la nature humaine. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, ne serait-ce que toutes ces choses, bien sûr, dans l'esprit, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, on peut avoir toutes sortes de mauvais désirs, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il est beaucoup question dans ces versets de nos rapports aussi avec les autres. Beaucoup de questions de nos rapports avec les autres, ce sont des choses qui arrivent dans l'esprit et qui peuvent arriver n'importe quand dans notre vie. Verset 8. Verset 8. Mais maintenant, donc, continue cette liste de péchés qu'il faut continuer à éliminer. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il parle des chrétiens qui sont fidèles pourtant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, une colère injustifiée, à l'animosité et à la méchanceté, à la calomnie. Qu'est-ce que c'est facile de calomnier quelqu'un si on fait pas attention, de dire des mauvaises choses sur quelqu'un et des choses parfois qui sont même pas justes. À la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourrait sortir de votre bouche. Il y a beaucoup de péchés avec la langue. On peut faire avec la langue, on peut faire beaucoup de bien et on peut faire beaucoup de mal. Donc, des choses qui sont dans l'esprit avant d'être sur la langue, avant qu'on commence à dire. Il y a une petite expression, c'est assez enfantine, on apprend ceci quand on est petit en Angleterre. Je vais pas le donner en Angleterre, mais c'est le fait que des bâtons et des pierres peuvent me rompre les os, mais les paroles vont jamais me faire du mal. Et c'est quelque chose que les enfants apprennent, c'est un petit rime, mais c'est pas vrai. Parce qu'on peut faire beaucoup de mal avec la langue. Beaucoup de mal. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Parlez des chrétiens. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. C'est facile à mentir dans certains domaines, ne serait-ce que par omission. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, il rappelle qui ils sont, le peuple de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, parce que Dieu nous aime, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Là, on a vu tout à l'heure les péchés. Il faut bien sûr remplacer ces péchés par des choses qui sont bien. Par la justice de Dieu, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous voulons, surtout à cette époque, être pardonnés par Dieu. Et pour être pardonnés par Dieu, il faut que nous pardonnions les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Nous allons vers la perfection. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. C'est marqué. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, l'amour, car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. On sera beaucoup moins enclin à juger, enfin, on ne sera pas enclin à juger, on sera beaucoup plus enclin à ne pas critiquer avec l'amour. Verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. On revient à Hébreux chapitre 4, verset 12. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. De faire le bien, pas de se faire du mal, mais de se faire du bien. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Pour s'exhorter, parce que le chemin est difficile, le chemin est long. Il y a notre part consiste à aider, comme nous pouvons aider. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, c'est un passage qui est un chapitre qui est réaliste. C'est un chapitre qui est réaliste, mais un chapitre qui est positif aussi par la même occasion. Et qui a à voir avec notre examen de nous-mêmes. 1 Jean chapitre 1, je commence avec le verset 7. C'est l'apôtre Jean qui parle, donc lui qui était un apôtre de Dieu, qui a connu le Christ, qui a pris, parce qu'il a passé tout ce temps avec le Christ. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, on reste proche de Dieu et le sang, et Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça permet de nous purifier parce qu'il y a le pardon. Verset 8. Si nous désirons que nous n'avons pas, si nous disons, pardon, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Le péché est là. Il ne faut pas que nous nous séduisons, qu'on soit séduit. Qu'on soit réaliste avec nous-mêmes, honnête avec nous-mêmes, qu'on voit ce que Dieu veut que nous voyions. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la Bible veut que, Dieu veut que nous soyons réalistes. Savoir, donc, avec notre examen avant la Pâque, ça prend tout son sens, ce verset. de voir la réalité de notre situation. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, donc il n'est pas question ici de peut-être qu'il y a péché, peut-être qu'il n'y en a pas, c'est marqué, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On revient à Proverbe chapitre 28, verset 13, d'avouer. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous vouloir purifier, c'est aussi le but. De demander le pardon de Dieu. Verset 10, c'est un verset très lucide. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. On ne peut pas se permettre d'être séduit. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et vous avez peut-être une annotation en bas de votre Bible, grec, paraclet. Paraclet, c'est, ou avocat, parfois traduit par avocat, c'est un intercesseur, quelqu'un qui conforte, qui défend, qui soutient, qui console. Nous avons un souverain sacrificateur, comme la Bible dit, qui était tenté comme nous en toutes choses. Donc le Christ sait comme c'est difficile pour nous, êtres humains. Le Christ sait que le péché nous enveloppe si facilement. Et le Christ, puisqu'il est passé par là en tant qu'être humain sans jamais pécher, le Christ sait comment intercéder pour nous auprès de son Père. Le Christ prononce les paroles qu'il faut pour intercéder auprès de son Père. Le Christ nous comprend sans qu'il soit d'accord avec le fait que nous péchons, bien sûr. Mais nous pouvons, du reste, nous pouvons, c'est marqué dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, nous pouvons prier le Christ. Mais le Christ est notre souverain sacrificateur. Le Christ nous aide. Le Christ est là. Parce que Dieu veut que nous soyons dans son royaume. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Toujours 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Toujours 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. L'amour de Dieu, le sacrifice que le Christ a donné pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, est tellement immense qu'on ne peut pas vraiment imaginer la profondeur de cet amour. Mais notre examen avant la Pâque, de discerner le corps du Christ, c'est notre réponse à ce sacrifice. Et nous avons une responsabilité. Il ne faut pas que nous négligions notre responsabilité personnelle. Le fait de s'examiner, c'est notre responsabilité personnelle face à ce sacrifice du Christ. Et il est crucial, on a parlé des rails aussi au début du sermon, dans ce Proverbe 28, et il est crucial pour que nous puissions réussir spirituellement. J'ai quelques citations, et ces citations, c'est intéressant quand je vais vous donner les noms de, il y en a trois ici, de chaque personne qui a donné ou fait ces citations. Le premier, c'est de Anne Frank. Les traductions, c'est les miennes. De Anne Frank qui a dit, la formation finale du caractère, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? On construit le caractère saint. La formation finale du caractère d'une personne est entre leurs mains. Non, excusez-moi, le deuxième, c'est pas une personne, c'est anonyme. Mais la citation est bonne aussi. Deuxième, c'est anonyme qui dit ceci. Acceptez la responsabilité de vos actions. Acceptez la responsabilité de vos actions. Soyez responsable pour vos résultats. Assumez vos erreurs. Je répète. Acceptez la responsabilité de vos actions. Soyez responsable pour vos résultats. Nous pêchons, il y a un résultat. Soyez responsable pour vos résultats. Assumez vos erreurs. Après le troisième, Mahatma Gandhi, il faut que vous soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Évidemment, ça rejoint tout à fait la Bible. Être des lumières dans ce monde. Il faut que vous soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et quand on s'examine, en prenant la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, on voit certains passages dans la Bible. Aujourd'hui, je parlais de Colossiens. Il y a d'autres passages, mais Colossiens, c'est bien parce que c'est en profondeur. Et tout ça nous amène au repentir. Tout ça, ça nous amène au repentir. Repentir quelque chose. On demande de repentir au Dieu. Et Dieu, bien sûr, va nous pardonner. Je reviens à 1 Jean chapitre 3 et le verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Nous lisons, quiconque a cette espérance en lui se purifie. C'est le processus, c'est l'époque par excellence. Maintenant, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme je dis, ça nous amène au repentir. Nous avons un passage dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. En ce temps-là, par où, bon, verset 1. En ce temps-là, par où, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le fait de se repentir, le mot, savoir avec le changement de son esprit, de penser différemment, de penser différemment. Psaume 51, verset 5. Volte-face, faire une volte-face, c'est vraiment penser complètement différemment. De remplacer le mal avec le bien. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions, il y avait le repentir ici, sans aucun doute. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il ne cherchait pas à se justifier, c'était une repentir sincère et profonde. Et Dieu a pardonné. Et Dieu a même dit par Nathan qu'il n'allait pas mourir. Job 42. Nous trouvons un langage aussi profond. Une fois que Job est passé par l'épreuve, une fois qu'il a compris certaines choses, dans Job chapitre 42, nous lisons verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière, sur la cendre. Job était un homme juste. Il était même cité comme exemple par Dieu lui-même. Mais Job aussi avait des choses qu'il fallait qu'il apprenne. Il était juste, mais il n'était pas parfait. Nous sommes justes si nous observons les commandements de Dieu, mais nous sommes loin, loin d'être parfaits. Il y a toujours du chemin à faire. Et de toute façon, l'époque avant la Pâque, c'est une époque où nous nous engageons Nous nous engageons vis-à-vis de Dieu de nouveau. Nous renouvelons notre engagement, l'engagement que nous avons pris avant le baptême. Où on approfondit notre engagement même. On a vu la dernière fois les exemples d'Ézéchias et Josias qui ont renouvelé, il y avait une zèle qui était renouvelée en Juda à ce moment-là. À nous aussi de renouveler notre zèle à cette époque. Et justement, en recherchant, en s'examinant, en s'éprouvant, comme la Bible demande. Si nous nous donnons la peine, si avec l'aide de Dieu, on cherche et que Dieu nous aide, et quand nous nous éprouvons nous-mêmes comme la Bible demande, nous pourrons à ce moment-là prendre la Pâque d'une manière digne. Nous ne sommes pas, bien sûr, dignes de prendre la Pâque. Nous restons pécheurs, même si nous sommes justes. Il y a encore le péché au-dedans de nous. Mais nous pouvons prendre, si on fait cet examen, nous pouvons prendre la Pâque d'une manière digne.